Alors voici un renversement de situation. La semaine dernière, nous abordions le texte de l'Exode qui parlait de massacrer et d'éradiquer le peuple hébreu. Aujourd'hui, cette histoire parle de la conquête par le peuple d'Israël du pays de Canaan et notamment à Jéricho. Alors, comme je le disais dans mon message précédent et je le redis aujourd'hui, nous devons lire ces textes avec une distance nécessaire et indispensable. Distance par rapport aux 2500 ans où ce récit a été mis par écrit. Et évidemment, distance par rapport aux événements actuels et dramatiques qui ont lieu aujourd'hui sur cette même terre d'Israël et Palestine. Essayons de prendre cette histoire pour ce qu'elle est. Non pas un récit chronologique, ni historique, mais c'est une transmission spirituelle. La grande question de l'époque est de savoir comment le Dieu unique va réussir à s'imposer dans une culture où le polythéisme est majoritaire. Le combat principal est celui des idoles, et le peuple hébreu a cette mission de révéler le Dieu unique. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui? Comment parle-t-il de Dieu? Qu'est-ce qui est mis en avant? Josué envoie deux espions à Jéricho et ils arrivent chez Rahab. La première question qui se pose, eh bien, c'est l'identité de cette femme. Dès le premier verset, on a un problème de traduction. Beaucoup parlent de prostituée. Mais on a une amie au camp biblique qui a fait une étude un peu plus fine de ce terme « zona » en hébreu. Cette amie, j'en ai parlé la semaine dernière, elle est mariée avec un arabe israélien chrétien. Et donc, elle a fait des études de théologie et elle nous a dit que « zona » ne peut pas toujours vouloir dire « prostituée ». On peut le traduire par « aubergiste ». Et c'est aussi cette dernière traduction que va privilégier un auteur du 1er siècle, Flavius Joseph, qui va faire tout un récit de l'histoire du peuple. Et il y a d'autres manuscrits aussi qui privilégient le mot d'aubergiste. En tout cas, cette femme, elle habite sur le rempart et dans le rempart. Et ça, c'est apparemment attesté par ce qu'on a retrouvé dans l'archéologie. Elle est à la limite de l'intérieur et de l'extérieur de la ville. Son nom, Rahab, signifie « large »,« spacieuse ». Est-ce que c'est cette position d'être dans un entre-dieu, dans un entre-deux, qui va lui permettre de s'ouvrir à autre chose que sa propre culture et sa propre religion? L'aubergiste accueille ceux qui viennent du dehors. Alors évidemment, sa profession lui donne mauvaise réputation. Quand on regarde la famille qu'elle cite, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il n'y a pas de mari ou d'enfant. En plus, une femme seule qui accueille des hommes, je ne vous raconte pas les commérages. Et ce texte met en scène le dedans et le dehors. Rahab va mentir aux serviteurs du roi en leur disant que les espions sont sortis de la ville alors qu'ils sont chez elle et qu'en plus elle les met de manière délibérée en sécurité. Elle les cache et les fait monter sur la terrasse, et en fait la terrasse qui est un lieu ouvert, de nouveau, sur le ciel, ouvert sur le ciel. C'est peut-être pas par hasard, parce que là il y a une discussion qui est tout à fait passionnante et prophétique avec les deux espions, et Rahab fait là une déclaration de foi. Elle affirme, elle sait même, que Dieu Yahvé leur a donné le pays, alors même que rien n'est fait. La réputation du peuple hébreu est arrivée jusqu'à elle et elle dit que les habitants de la région ont tremblé et en ont perdu le souffle. Et elle déclare « Yahvé, votre Dieu, est Dieu dans les cieux au-dessus et ici-bas sur la terre. » Dans la bouche de Rahab, c'est quand même exceptionnel. Elle reconnaît que ce Dieu-là est plus grand de tout et plus grand que tout. Il n'entre même pas en concurrence avec d'autres dieux, puisqu'il règne sur la terre et sur tout l'univers. La concurrence, on la retrouve dans certains psaumes. Le psalmiste dit « Non, mais notre Dieu, il est plus fort que le vôtre. » Là, il n'y a même plus de concurrence puisqu'il englobe tout. Et Rahab, eh bien, elle a choisi son camp. On pourrait dire qu'elle trahit son peuple. Mais l'histoire de Rahab veut mettre en évidence l'importance des étrangers et des étrangères dans les écrits de l'histoire du peuple d'Israël. Et on le retrouve au début de la généalogie de Jésus, où vous avez peut-être remarqué, quatre femmes sont citées en quatre versets, et dans les quatre femmes, il y a deux étrangères, Rahab et Ruth. Donc on a vu que Rahab serait la mère de Boaz, et Boaz, le nouveau mari de Ruth, qui lui permet d'engendrer Obed, le grand-père du roi David. Et du coup, si on met ces femmes dans la généalogie de Jésus, eh bien ça veut bien dire quelque chose de l'ouverture de Jésus aux femmes, et en particulier aux femmes étrangères. En tout cas, on peut dire que les textes de l'Ancien Testament témoignent d'une pluralité extraordinaire. Certains écrits demandent de ne pas côtoyer les femmes étrangères et encore moins de se marier avec elles, surtout au moment où le peuple doit revenir de l'exil à Babylone, au moment où il se réimplante à Jérusalem. Et puis d'autres textes comme le nôtre, eh bien, mettent Rahab en avant. Et Rahab a dû être une femme particulièrement reconnue, on a dû raconter ses histoires oralement, bien avant que ce soit mis par écrit. Alors, une fois que Rahab a confessé sa foi, elle fait un pacte avec les deux hommes. Ces derniers ont la vie sauve grâce à elle. Elle ne les a pas dénoncés. Elle montre qu'elle a fait preuve de bonté et de fidélité envers eux. Et le mot qui est utilisé là, c'est « chesed ». En hébreu, c'est utilisé pour parler de la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et elle leur demande aussi d'être bon avec elle en leur proposant un signe concret pour sceller le pacte. Ce sera un fil rouge écarlate. Il se verra dans la muraille au moment où les armées de Josué arriveront pour détruire Jéricho et la vie des espions et de celle de Rahab deviennent complètement interdépendantes. Elle va les faire descendre avec une corde par la fenêtre. C'est pratique d'habiter sur le rempart. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas une autre histoire. Quelqu'un, merci Jean-Siane, quelqu'un qui est descendu de la muraille, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est descendu dans une corbeille parce qu'il fallait qu'il se sauve du roi de Damas qui voulait l'attraper. Oui, c'est pratique d'habiter sur un rempart. Et puis en plus, Rahab leur dit, comment faire pour ne pas être attrapé? Il faut aller dans le côté opposé, il faut attendre un peu et ensuite ils reviennent. Et ils vont de nouveau retrouver Josué. Alors ainsi, elle va être sauvée de cette prise de Jéricho. On a entendu qu'un petit peu plus loin dans le chapitre, Rahab va vivre au milieu, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Apparemment, elle s'est bien intégrée au peuple d'Israël et elle a été bien acceptée. Alors évidemment, l'histoire a été écrite après coup et c'est notamment dans les moments où on a besoin de courage qu'on se raconte ces histoires-là. Surtout au moment de l'exil, quand le peuple est pris à Babylone. Et le peuple à ce moment-là a été étranger. Et du coup, ces textes-là ont beaucoup de sens. Parce que finalement, Rahab a su accueillir les étrangers et Rahab est devenue elle-même étrangère au milieu du peuple. Alors, j'ai déjà parlé la semaine dernière de l'importance que Jésus donne à l'étranger comme un être humain à part entière. Et cette histoire est aussi l'occasion de se poser la question comment moi je vis le contact avec ceux qui sont étrangers, ceux qui me sont étrangers. Dans mon ministère pastoral, j'ai la chance de rencontrer de nombreuses personnes de tous horizons et d'avoir des conversations qui interrogent notre rapport aux étrangers. Dans une paroisse précédente, je me souviens d'une personne qui venait du Cameroun et en fait, elle me disait son étonnement à ne pas avoir été bien accueillie en France. Elle me disait, tu comprends, à partir du moment où les Français sont venus chez nous, au moment de la colonisation, Ben, je me disais qu'en allant en France, on serait bien accueillis. Vous connaissez là, sans doute la suite de l'histoire, ça n'a pas été le cas. Et heureusement, elle avait un métier relativement bien reconnu et elle a trouvé dans l'Église aussi une communauté accueillante. Et souvent, j'ai entendu des récits, j'ai lu des récits aussi de personnes venant d'un pays étranger et avouer se sentir eux-mêmes étrangers dans les deux pays, le pays d'origine et le pays d'accueil. Et ça, je suis bien consciente que c'est quelque chose que moi, je ne peux pas connaître et que ça doit vraiment être difficile à vivre. J'ai lu le livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, et en lisant ce livre, j'ai encore progressé dans ma prise de conscience des propos que l'on peut penser ou dire sans se rendre compte de la pensée raciste ou excluante. Et ça, cela vaut pour toutes les minorités, jusqu'aux minorités des femmes qui ne sont pas une minorité. J'ai encore entendu dire cette semaine que, de la part d'un homme, que oui, les filles, c'est des poisons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de garçons qui naissent ? Et puis, je lisais aussi cette semaine dans le journal un article sur les dépressions de personnes stigmatisées, racisées, comme on dit aujourd'hui, qui voient un jour la réflexion de trop faire déborder le vase de ce qu'elles ont dû supporter depuis des années. Les traumatismes ressurgissent et sont entendus. Et dans l'article, il parlait en particulier d'une psychiatre qui reçoit à Montrouge. Notre monde n'a jamais été aussi mélangé. Comment faire de ce mélange une richesse et non pas un prétexte à la peur ? Nos églises peuvent être des lieux accueillants, mais il faut bien le reconnaître, le racisme ne les épargne pas. Et ce qui m'étonne le plus dans ces situations, c'est qu'on puisse faire passer la peur de l'autre et la différence de l'autre, avant le fait que nous sommes tous enfants de Dieu, tous égaux en amour, qui que nous soyons devant Dieu. Je me dis, c'est une injure faite au Dieu vivant quand on agit de façon excluante et méprisante. Exclure, c'est vouloir mettre dehors, en dehors de nous, celui qui nous gêne. Et comme Rahab, qui était à la limite du dedans et du dehors, Jésus s'est placé, lui aussi, sur les frontières géographiques, religieuses, sociales, accueillant ceux et celles qu'on voulait exclure jusqu'à les sauver. Oui, Jésus est venu nous montrer un chemin difficile et radical, accueillir sans exclure. Nous qui sommes rapides à céder aux influences de la peur, en particulier dans notre société d'aujourd'hui, comment l'entendre ? Comment le vivre ? L'espérance que nous donne sa victoire sur la mort peut nous aider à changer de perspective. En acceptant de regarder l'autre comme un frère, une sœur en humanité, avec les yeux de Jésus, quelqu'un qui est mortel comme moi et qui est appelé à la vie comme moi par le Dieu du ciel et de la terre. Amen.